Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui passe complètement sous les radars en fait.
Salut Sam. Ouais, un sujet massif mais super silencieux, c'est vrai.
C'est clair. On parle d'un chiffre ahurissant, plus de 550 000 dirigeants d'entreprises en France qui vont prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie.
C'est colossal, c'est vraiment un tsunami démographique.
Ouais, et le truc le plus fou là-dedans, c'est pas juste le nombre de départs, c'est que pour une énorme partie d'entre eux, il y a personne pour reprendre le flambeau, quoi.
Exactement. La génération suivante, elle n'en veut pas ou alors elle est partie faire complètement autre chose.
Du coup, on se retrouve vraiment à l'aube du plus grand transfert de richesse de notre époque. Et ça se passe dans l'indifférence totale. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la meilleure stratégie entrepreneuriale actuelle, c'est peut-être pas du tout de lancer une énième start-up tech.
Bah non, clairement pas. Quand on regarde l'actualité, c'est sûr, on nous bassine avec l'IA, les levées de fonds géantes, les fameuses licornes.
Grave. Toujours la tech, quoi.
Voilà. Mais les sources qu'on a épluchées pour cette analyse racontent une toute autre histoire. On a croisé les données de la Banque des Territoires, des notes très précises de Bpifrance et un super article de fond de Repreneur.news sur la méthode « Buy, then build ».
Acheter, puis bâtir, ouais, c'est fascinant comme concept. Et ça montre que la vraie opportunité, c'est peut-être juste de racheter la boîte de plomberie industrielle du coin ou l'entreprise de maintenance logistique.
C'est exactement ça. Et pour bien comprendre, il faut déjà redéfinir ce qu'on appelle l'économie réelle. L'article de Repreneur.news utilise une image parfaite. Ce sont les boîtes qui opèrent sous le capot.
Sous le capot, ouais, j'adore cette expression.
C'est très parlant. On parle de nettoyage professionnel, d'usinage, de réparation agricole, des trucs qui feront jamais la couverture des magazines tech, quoi.
Ah, c'est sûr. Mais en fait, c'est un peu comme l'anatomie humaine.
Comment ça?
On passe notre temps à complimenter une belle peau ou de beaux cheveux, tu vois. Ça, c'est la vitrine, c'est les startups, le CAC 40, tout ce qui brille.
Ah oui, je vois l'idée.
Mais ces PME traditionnelles, ce sont les poumons, en fait. Ou le système nerveux. C'est invisible, mais si ça s'arrête une seconde...
Tout le corps lâche, c'est clair. Si le système nerveux déconne, tes beaux cheveux, ils te servent plus à grand-chose.
Exactement. Si l'entreprise de maintenance qui gère le refroidissement des data centers fait faillite, ta start-up révolutionnaire en IA, elle n'a plus un seul serveur qui tourne.
C'est pour ça qu'on parle de résilience absolue pour ces boîtes. La demande, elle dépend d'aucun effet de mode. Que la croissance soit à 3% ou qu'on soit en pleine récession, les usines, elles devront toujours être nettoyées.
Ouais, les camions devront toujours être réparés.
Voilà, l'électricité devra circuler. C'est une stabilité incroyable. On est très, très loin des montagnes russes de l'innovation où on ne sait pas si le produit marchera demain.
Ce qui nous amène direct à la grande question de la méthode. Parce que si ces boîtes sont le vrai moteur, comment on fait pour y entrer? L'image classique de l'entrepreneur, c'est le créateur, quoi. Tu te lèves avec une idée de génie et tu montes ta boîte.
Ouais, le mythe du garage. Sauf que les données montrent que c'est un pari super risqué. Quand tu crées de zéro, from scratch, tu affrontes une incertitude totale.
Tu dois trouver ton premier client.
Exactement. Prouver que le marché existe, embaucher des gens sans savoir si tu pourras les payer dans 6 mois, c'est la fameuse vallée de la mort. Tu crames ton cash en espérant être rentable un jour.
Et le taux d'échec est massif.
Mathématiquement, oui. C'est énorme.
Et c'est là que la reprise prend tout à contre-pied. En rachetant une PME, tu hérites d'une machine qui tourne déjà. Il y a des clients fidèles, un chiffre d'affaires et surtout, et c'est le mot magique, le cash flow.
Le nerf de la guerre.
Voilà, la trésorerie qui rentre dès le premier jour. Bon, le risque ne disparaît pas par magie, on est d'accord, mais il change de nature.
C'est le point fondamental. Quand tu crées, le risque est externe. Genre, est-ce que le marché veut de mon idée? Ça, tu le contrôles pas. Mais quand tu reprends, le marché est déjà validé depuis 20 ans.
Donc le risque devient interne.
C'est ça. C'est un risque d'exécution. La question, c'est juste, est-ce que je suis capable de diriger cette machine sans la planter?
Ok, financièrement, c'est super logique. Mais attends, sur le plan humain, c'est pas hyper risqué? Je veux dire, tu débarques un lundi matin comme ça, comme le nouveau patron d'une équipe de chaudronniers qui bossent ensemble depuis 15 ans.
Ouais, l'accueil peut être rude.
Bah oui, ils ont leurs habitudes, leur culture avec l'ancien boss. Arriver comme un cheveu sur la soupe, c'est un champ de mine. Vaut pas mieux recruter sa propre équipe de zéro, au moins tu sais qu'ils partagent ta vision.
C'est une objection super valide. Le choc culturel, il est réel. Mais Et c'est là que la reprise a un avantage écrasant. T'as un filet de sécurité.
Le fameux cash-flow.
Exactement. Imagine un gros conflit avec un salarié clé dans une start-up qui vient de se lancer. Ça peut couler la boîte direct parce qu'il n'y a pas de réserve.
L'argent permet d'acheter du temps, en fait.
C'est tout à fait ça. Dans une PME saine, même si ça grince un peu les premiers mois au niveau management, ben les clients historiques continuent de payer les factures. Ça donne au repreneur le temps d'observer.
Il n'a pas besoin de tout révolutionner la première semaine.
Non, il peut prendre 6 mois pour capter la culture, repérer les leaders dans l'équipe et ajuster son approche en douceur. Le cash flow absorbe les frictions.
C'est un sacré amortisseur. Mais du coup, pourquoi cette opportunité, elle explose précisément maintenant? On en revient à cette stat de la Banque des Territoires, les 550 000 départs à la retraite. Pourquoi le modèle classique de la succession familiale, bah, il marche plus aujourd'hui?
Bah, historiquement, le patron de la menuiserie, il passait la boîte à ses enfants. C'était très ancré. Mais aujourd'hui, les enfants, ils ont fait des études dans des grandes villes, ils sont partis à l'étranger ou ils bossent dans la tech.
Ils n'ont pas trop envie de revenir dans la diagonale du vide pour gérer une usine d'usinage.
Voilà, le lien dynastique est totalement cassé. Du coup, ces boîtes, si personne ne les rachète quand le patron part,
Elles ferment, tout simplement. Et c'est pas un problème de carnet de commandes vide, c'est juste qu'il n'y a plus de pilote.
et c'est là que ça devient un vrai enjeu de société. Une PME rentable qui ferme, c'est des dizaines d'emplois locaux détruits, c'est des recettes fiscales en moins pour la commune.
C'est tout un savoir-faire qui s'évapore, quoi. Donc en fait, l'entrepreneur qui reprend, il a presque une mission de sauvetage du patrimoine économique. On est loin du cliché du loup de la finance.
Ah, totalement. Il devient un peu le gardien du territoire. C'est la beauté de ce modèle. L'intérêt financier personnel du repreneur qui achète une boîte très rentable, ben il s'aligne parfaitement avec l'intérêt collectif.
On sauve l'emploi local tout en faisant des bénéfices. C'est gagnant-gagnant.
Exactement.
Mais attends, face à ce demi-million d'entreprises qui vont arriver sur le marché, comment on fait le tri là? Le but, c'est pas de faire dans la charité et de racheter une boîte en déclin. Faut trouver la pépite. Et là, l'article sur la thèse de Walker de Bail, le Buy Then Build, il est hyper instructif.
Ouais, Deibel, il donne des critères de sélection implacables. La règle d'or, c'est de chercher une plateforme pour accélérer, pas une boîte à sauver. Et il donne un seuil indicatif, autour d'1 million d'euros, de chiffre d'affaires.
1 million! Pourquoi ce palier spécifique? Si je rachète une boîte qui fait genre 300 000 euros, ça compte pas?
Le truc, c'est qu'en dessous d'un certain seuil, tu n'achètes pas une entreprise, tu achètes un emploi.
Ah, je vois.
Prends une petite imprimerie de quartier. Si le patron fait les devis, imprime et gère la compta, bah le jour où il part, la valeur de la boîte part avec lui.
Il est la boîte.
Voilà. Alors qu'à partir d'1 million, la structure, elle est plus autonome. Il y a un chef d'atelier, une personnel administratif, des process. La machine peut tourner même sans le fondateur.
Source de nos sites d'autres critères vitaux. On parle beaucoup de la qualité des revenus. En gros, on cherche de la récurrence, non?
Absolument. La récurrence, c'est la sérénité. Si tu reprends une boîte de maintenance d'ascenseur, c'est 1 000 fois mieux d'avoir des contrats annuels avec des copropriétés que de dépendre de chantiers d'installation ponctuels.
Tu sais déjà ce que tu vas gagner l'année prochaine, quoi. Et il y a aussi cette histoire d'indépendance vis-à-vis des clients. L'article dit qu'aucun client ne doit faire plus de 15 ou 20% du chiffre d'affaires.
C'est vital. Imagine, tu rachètes un sous-traitant dont 60% de l'activité dépend d'un seul gros constructeur automobile.
Si le constructeur change de fournisseur, t'es mort.
Exactement, du jour au lendemain. Donc il faut un portefeuille très diversifié. Et puis il y a le grand mot qui fait peur dans le milieu, l'EBITDA ou l'EB en français, l'excédent brut d'exploitation.
Ouais, le fameux jargon financier. Mais concrètement, quand tu regardes une PME, ça veut dire quoi, EBITDA?
C'est très simple en fait. C'est la vraie capacité de l'entreprise à générer du cash avec son activité pure avant de payer les impôts, les banques ou les amortissements. C'est le thermomètre absolu.
C'est ce que la banque regarde en premier, j'imagine.
Tout à fait. C'est ça qui indique si le cœur de la boîte bat assez fort pour rembourser une dette.
Ok, donc on a trouvé la pépite, bon client, bon revenu récurrent, super EBITDA. Là, on passe à la phase build, la construction. L'idée, c'est d'acheter une base saine pour la moderniser, sans tout casser. C'est un peu comme racheter une vieille maison des années 70, quoi.
C'est une excellente analogie. Une maison avec des fondations en béton armé hyper solides.
Voilà. Tu touches surtout pas aux murs porteurs, ils tiennent depuis 30 ans, la boîte est solide. Tu vas juste moderniser l'intérieur, tu mets la fibre optique, de la domotique, une belle cuisine, et boum, la maison voit sa valeur exploser.
C'est exactement ça appliqué à la PME. Dans l'atelier, tu gardes les machines et les ouvriers qualifiés. Mais par contre, tu ajoutes un logiciel de gestion des stocks ultra moderne.
Tu vires les bons de commande en papier pour mettre des tablettes aux commerciaux.
Exactement. Tu crées un vrai portail e-commerce B2B. C'est la règle du sans rien casser. Tu ajoutes des couches d'innovation sur une base qui marche.
Ça a l'air génial. Et l'article parle aussi des build-ups, non?
Triel, et 2 ans après, paf, tu rachètes un petit concurrent spécialisé dans le nettoyage de vitres en hauteur.
Et du coup, tu mutualises la compta, les RH.
C'est ça, tu proposes les deux services à tous tes clients, et là, la valeur totale décolle vraiment.
Franchement, présenté comme ça, on dirait une recette magique. Tu prends une boîte saine, tu la digitalises, tu fusionnes, jackpot. Mais parce qu'il y a un mais. Les notes de BPI France viennent un peu calmer le jeu. Elles mettent un gros panneau stop. L'obstacle géant, c'est le mur du financement.
Ah oui, c'est l'épreuve de réalité. Tu rachètes pas une boîte à 1 ou 2 millions juste avec tes économies.
Ah bah non, on n'a pas tout ça sous le matelas. Donc on passe par un LBO, un leverage buyout, c'est-à-dire qu'on lève de la dette auprès d'une banque. Et c'est là que la mécanique est vicieuse. C'est pas le repreneur qui paie la banque avec son salaire.
Non, c'est l'entreprise elle-même qui rembourse la dette d'acquisition avec ses propres bénéfices.
C'est fou quand on y pense. En fait, pour faire le parallèle avec les finances perso, c'est pile comme un prêt immobilier mal calculé, tu vois.
Comment ça?
Ben, imagine, t'achètes un immeuble. Les locataires te payent 2000 euros de loyer, mais ta mensualité à la banque, elle est de 1950 euros.
Ah, il te reste que 50 balles de marge.
C'est l'asphyxie totale. Si la chaudière pète le mois d'après, t'es en défaut de paiement. Et pour notre PME, c'est pareil. Si tout le fameux EBITDA sert au centime près à payer la banque, comment on finance la phase build?
C'est l'erreur numéro 1.
Bah ouais. Comment tu payes ton nouveau logiciel ou ta stratégie e-commerce si les caisses sont vides à la fin du mois?
C'est exactement ce qui mène à la faillite. Si la dette est trop lourde, la boîte devient prisonnière, elle ne peut plus investir, elle stagne. Et au premier coup dur, un client qui part, le prix des matières premières qui monte, elle coule.
D'où le rôle crucial des acteurs comme BPI France, en fait.
Tout à fait. Ils ne sont pas juste là pour faire des chèques, ils aident à structurer la dette pour que ce soit viable.
Ils étalent les paiements, ils donnent des garanties.
Voilà, ils amènent des garanties qui donnent de l'oxygène à la trésorerie. Il faut calibrer le truc pour qu'après avoir payé la banque, il reste assez de cash pour faire tourner la boîte au quotidien et pour investir dans la modernisation.
Donc tout se joue sur un fichier Excel bien avant d'aller chez le notaire, quoi. Faut vraiment que le coussin de sécurité soit béton.
C'est un vrai travail d'équilibriste. La préparation financière doit être chirurgicale.
C'est passionnant. Quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, l'urgence démographique, la force de ces PME de l'ombre et toute la puissance de la méthode buy then build, ça change complètement notre vision de l'économie, en fait.
Ah, totalement. Le regard qu'on porte sur le quotidien change.
Grave. La prochaine fois qu'on croisera une camionnette d'artisans sur l'autoroute ou qu'on passera devant une zone industrielle avec des hangars gris, ben, on verra plus juste un vieux décor du passé.
Non, on verra des actifs hyper rentables, des vrais poumons économiques qui n'attendent qu'à être optimisés. C'est l'économie de la fondation, celle qui fabrique, qui répare, qui transporte.
Loin de l'économie du spectacle et des écrans.
Voilà.
Et l'enjeu des 10 prochaines années, la sauvegarde de tous ces emplois, ben, ça va se jouer discrètement. Dans des petits bureaux de province, loin des caméras.
Ça laisse vraiment songeur, surtout sur la prochaine génération de leaders. Pendant des années, le mythe absolu de la réussite, c'était le gamin qui lâche la fac pour coder la future appli mondiale dans sa chambre.
Le fameux cliché de la Silicon Valley.
Ouais.
C'est ça. Mais vu qu'on est face au plus grand transfert d'actifs de l'histoire moderne, il y a de quoi se poser une question assez provocatrice pour finir. Est-ce que les entrepreneurs les plus puissants, les plus riches des années 2030, ce ne seraient pas ceux qui aujourd'hui décident de tourner le dos au mirage de la tech?
Ceux qui feraient le pari inverse, en fait. Exactement. Ceux qui rachètent boîte après boîte pour bâtir des empires régionaux géants de la plomberie, de la logistique ou du traitement des déchets. L'or de demain n'est peut-être pas dans les algos, mais bel et bien caché là, sous le capot. Sur ce, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau sujet.